Bienvenue au Polysécur épisode spécial sur l'Ukraine. Je suis avec Alexis.
Bonjour Nicolas.
Bonjour. Fait que là, on va aborder un sujet qui est très sensible, qui fait beaucoup les médias. On ne parlera pas du problème sur le terrain parce qu'on n'est pas spécialisé là-dedans. On va vraiment s'intéresser au côté cyber parce qu'il y a beaucoup d'énervement depuis ce temps-là. Donc, je pense qu'il y a un peu de clarté à avoir sur tout ça et comment vraiment interpréter les informations. Fait que je vais te laisser commencer avec un peu une forme d'historique des premiers événements qu'il y a eu justement au début du déclenchement de cette guerre-là.
Oui, voilà. Dans le fond, on va remonter à la semaine du 21 mars, oui, 21 février, dis-je. Quelques jours avant vraiment l'invasion sur le terrain là, des Russes en Ukraine, il y a eu des premiers signes de cyberattaque qui ont été détectés. On parlait surtout d'attaques de type déni de service. Donc, il y a des systèmes, des sites web en Ukraine qui ont commencé à tomber, qui n'étaient plus disponibles. Quelques jours plus tard, le 23 février pour être précis, ISET a détecté le premier signe d'un wiper. Donc ça, c'est un logiciel malveillant qui a comme but unique de corrompre les ordinateurs qui sont infectés. Donc il n'y a pas de vol de données, il n'y a pas de motif financier. C'est vraiment une activité au niveau du disque dur, puis de corrompre le disque dur pour rendre les systèmes inopérants de façon permanente. Et les premières exécutions de ce wiper-là ont eu lieu quelques heures seulement avant l'entrée des forces russes sur le terrain. Par après, on a découvert d'autres modules liés à ce premier wiper-là qu'on a appelé Hermetic Wiper. Ça a été une espèce de consensus sur Twitter parce qu'on ne l'avait pas nommé initialement. Là. Donc, Hermetic Wiper, qui est le premier, on a découvert un composant qui permettait de propager le wiper dans des réseaux internes. Je dois le préciser, là, la propagation, c'était vraiment très, très limité. Là, on est loin d'un cas comme NotPetya qui exploitait une vulnérabilité qui pouvait se propager partout dans le monde. Là. Donc, c'est assez limité. On a aussi découvert une deuxième famille de wiper qu'on a appelé Isaac Wiper qui avait essentiellement les mêmes objectifs là, de rendre les systèmes inopérants. Puis, ce qui est intéressant là, de noter, c'est que ces deux wipers-là semblent avoir été développés à partir de zéro là, pour cette attaque-là ou ces attaques-là. Il n'y avait aucune similarité au niveau du code avec quoi que ce soit qu'on n'a jamais vu dans le passé. Donc, on a vu uniquement ces logiciels malveillants-là être déployés en Ukraine. On les a vus nulle part ailleurs en date du 10 mars 2022. On a vu que de l'activité en Ukraine.
C'est très intéressant. Ben, très intéressant dans le sens où c'est très plutôt rare de voir ce genre d'unicité-là. Et ce genre de portée très, très étroite aussi d'action d'un code malveillant. NotPetya, justement, il l'avait échappé, puis ça avait comme glissé à travers le monde, même si on prétend que l'intention était très limitée, là, celui qui s'est échappé. Là, il ne s'est pas échappé, puis c'est vraiment du code ce que tu mentionnes est tout nouveau. C'est-à-dire qu'il se préparait quand même depuis plusieurs semaines, là, on peut supposer, là.
Oh oui, clairement, tout indique que c'était planifié. Il y a un élément technique dans l'attaque qu'on a noté, c'est l'utilisation d'un certificat de signature numérique de code exécutable qu'on appelle Code Signing Certificate qui a été émis là, plus tôt. Le certificat comme tel a été émis en 2021. Et ensuite, il a été utilisé pour signer ces logiciels malveillants-là. Dans un des cas, dans le fond, il y a plusieurs organisations en Ukraine qui ont été affectées. On en a investigué certaines là-dedans. Puis une d'entre elles, le Hermetic Wiper, a été déployé à l'aide d'une GPO, à l'aide d'une policy du domaine Windows là, en question. Donc, c'est clair à ce moment-là que l'attaquant avait déjà le contrôle du réseau bien avant le lancement de la policy puis le déploiement de Hermetic Wiper. Donc, ça s'est fait de façon calculée, c'est certain.
Intéressant justement qu'il était déjà rentré dans le réseau. C'est vraiment ce qu'on pourrait qualifier une attaque beaucoup plus sophistiquée que ce qu'on était habitué de voir. Puis probablement qu'il était patient puis qu'il attendait le bon moment pour déclencher la dite situation. Fait que c'est très très intéressant au sens technique de la chose. Est-ce qu'il y a eu d'autres cas comme ça que vous avez repérés dans la même période?
En fait, non, l'activité a cessé assez rapidement au niveau des wipers. On a eu la chance de les analyser en détail. On a essayé, en fait, une fois le moment de très intense d'analyse préliminaire puis de partage de l'information, là, on a évidemment communiqué de l'information à différents partenaires là, pour qu'ils puissent se défendre contre ces wipers-là. On essaie de lier ces attaques-là à des groupes ou à des acteurs connus qu'on aurait pu déjà avoir observé. J'ai mentionné qu'il n'y avait pas au niveau du code, il n'y avait pas de similarité, mais on a essayé de s'intéresser à d'autres aspects techniques de l'attaque. Est-ce qu'il y avait de l'infrastructure utilisée par les attaquants qu'on avait déjà vu ailleurs? Est-ce qu'il y avait des traces ou des indices qui pouvaient nous dire « Ah, ça, c'est APT-28 ou APT-29 ou un groupe connu? » Et en fait, on n'a trouvé absolument rien. Pour nous, on considère ça comme une attaque faite par un acteur malveillant nouveau, non classifié, là, parce qu'on ne le connaît pas encore.
C'est très surprenant. J'imagine qu'on peut y supposer que c'est soit un acteur actuel qui a juste retoulé ou vraiment littéralement tout pour son besoin dans lequel ce que c'est de la cyberguerre qui lui a été commandée, ou littéralement des employés finalement de la Russie qui sont chargés de faire ce genre de choses-là. Mais c'est pas à ce que je cherche leur modèle. Ils préfèrent utiliser des privateers, ils préfèrent sous-traiter ce genre de travaux-là plutôt que d'avoir ça à même leur payroll.
Oui, ça, c'est pour nous, c'est bien difficile à déterminer, mais c'est particulier parce qu'on aurait pu s'attendre à ce que des groupes connus soient utilisés ou soient impliqués dans ces attaques-là. Il se passe des choses en Ukraine depuis plusieurs années, des choses uniques au niveau des cyberattaques. On a mentionné notre Petya qui était très, très dévastateur. Là, ça va rester dans l'histoire comme une des attaques les plus dévastatrices de l'histoire. Mais il ne faut pas oublier aussi l'attaque contre la compagnie d'électricité ukrainienne, hein, une attaque qui utilisait pour la première fois un logiciel malveillant désigné pour interagir avec l'équipement qui se trouve dans les centrales électriques. Donc, c'était la première fois qu'on voyait ça de l'histoire. Puis ça avait fonctionné hein, pendant plusieurs heures à Kiev. Il n'y avait pas eu d'électricité quand ça s'était produit. Donc, on aurait pu s'attendre à ce que ces groupes-là qui sont présents en Ukraine pour faire des attaques à différents moments aurait été aussi impliqué là, dans les derniers jours, les dernières semaines, puis ça ne semble pas être le cas.
Tant qu'à ça, on va brancher sur Conti, qui s'est quand même fait un peu éventré par soit des collaborateurs ou soit des gens qui se sont infiltrés. Là, parce qu'on, je sais pas, c'est un peu dur de savoir à quel point, là, mais quand même, c'est assez intéressant ce qui en est sorti de tout ça. Puis toute l'information que ça donne justement à des analystes comme vous autres de pouvoir avoir une vue interne du fonctionnement de ces groupes-là.
Le timing de ça est aussi important hein, parce que Conti a déclaré supporter le gouvernement russe et puis menacé de représailles ceux qui oseraient s'attaquer à l'infrastructure russe par le biais de cyberattaques et tout. Donc, disons qu'on sait dans quelqu'un ils ont choisi. Et que ça a pris quoi? 2 ou 3 jours? Et puis il y a eu la fuite de toutes leurs logs, de leur messagerie. Puis comme tu dis, on ne sait pas exactement. À ce que je sache, il n'y a personne qui a revendiqué officiellement la fuite. Est-ce que c'est peut-être un collaborateur qui était en désaccord avec les actions de la Russie? Est-ce que c'était peut-être un chercheur ou même quelqu'un des forces de l'ordre qui aurait infiltré le groupe et qui aurait dit OK, c'est assez maintenant, c'est le temps de tout fuiter. Fait qu'on ne connaît pas le motif réel des personnes ou de la personne derrière cette fuite-là. On ne sait pas non plus, évidemment, s'il n'y a pas eu des modifications. Hein. Faut toujours prendre ça avec un grain de sel. Si on ne sait pas d'où vient la fuite, elle a peut-être été altérée pour des motifs quelconques. Là. Donc, bon, c'est super intéressant ce qu'il y a là-dedans, mais il faut faire attention aux conclusions qu'on en tire pour l'instant. Mais au niveau des forces de l'ordre, toujours, il faut être capable de corroborer l'information avec une source indépendante. Là. Ça donne un méchant bon point de départ aux forces de l'ordre qui essaient d'attraper les gens qui opèrent Conti pour partir des investigations pour raffiner leur investigation actuelle.
Oui, c'est ça, ça dirige les choses. Dans le timeline général, tu avais fait le tour ou tu as d'autres choses que tu aimerais aborder dans les différents événements qui se sont passés, là, depuis la chronologie depuis le début?
Non, pour ce qui se passe en Ukraine, je pense que ça fait le tour. Ça fait le tour des événements marquants. Ça s'est vraiment passé. Le gros, là, c'est entre le 25 février puis la fin du mois. Et maintenant, on voit plus vraiment, en fait, on voit plus de signes d'attaque spécifiques comme on a vu là, dans ces moments-là avec des Wipers.
Est-ce que ça concorderait avec la coupure qu'on a eue? Les coupures Internet, il y en a eu plusieurs depuis. Autant la censure interne qui est appliquée de plus sauvage et les grands transporteurs qui commencent à couper les liens. Certaines personnes me disent qu'ils commencent à avoir une réduction du bruit, entre autres des trolls, qui commencent à être beaucoup moins bruyants depuis que finalement l'Internet russe est limité. Là. Est-ce que vous avez vu des éléments comme ça qu'on peut rattacher avec des changements de cette nature-là?
Ouais, c'est pas quelque chose qu'on suit attentivement au niveau disons de la censure ou des canaux de communication que les trolls pourraient utiliser et tout. Je sais qu'ils commencent à avoir beaucoup de restrictions au niveau des médias qui sont clairement des médias contrôlés par le gouvernement russe, qui sont retirés de certaines plateformes. Il y a peut-être une chose qu'on peut mentionner, c'est des attaques ou des incidents de type hacktivism. On a vu Anonymous à peu près au même moment où Conti s'est levé. Anonymous a aussi lancé un appel. Il y a eu des sites web russes qui ont été le contenu a été changé là, pour des messages contre la guerre, ce genre de trucs-là. Mais ça reste, je pense, en marge. Du cœur du conflit.
Justement, en parlant d'Anonymous, puis on a eu Conti qui c'était ça, mais là, tu as Anonymous, est-ce que vous avez vu des signes de choses comme ça ou c'est vraiment c'est vraiment désorganisé comme se veut Anonymous, puis c'est un appel à tout le monde, puis à faire n'importe quoi?
Ouais, c'est plus ça, c'est plus des appels à non structurés. Ils peuvent lancer des cibles et c'est basé sur le volontariat, si on veut. Hein, les gens qui veulent se joindre au mouvement peuvent le faire de leur propre façon, de leur propre chef. Je ne sais pas s'il fonctionne encore, mais il y a même eu une espèce de plateforme pour que les gens puissent laisser leur ordinateur être utilisé pour des attaques de déni de service. Donc, ils laissaient le contrôle à quelqu'un d'autre de vraiment utiliser leur ordinateur comme un des nœuds qui envoie du trafic. C'est assez particulier. Disons que je ne recommande pas ce genre de d'activité-là. C'est super risqué. Là.
Mais de toute façon, je ne recommande pas de faire du activisme parce que d'un point de vue pur légal, on n'est pas dans la loi, c'est pas bien. Puis on se mêle d'un conflit qui dépasse largement notre connaissance. Tu mentionnais justement de corroborer des choses comme ça, mais votre portée, vous avez déjà une vision beaucoup plus vaste qu'un individu normal peut avoir. Moi, comme individu, j'ai pas cette vision-là. Fait que je me mêle d'un conflit qui n'est pas le mien. J'interfère avec les forces qui sont du sens dans lequel je veux pousser parce que je sais pas ce que les forces canadiennes ou les forces américaines ou l'OTAN en général font actuellement sur ce genre de choses-là. Et je pourrais leur nuire et vice-versa. Là, je me mets la face aux Russes dans lequel je veux pas qu'ils me regardent. J'insiste pas vraiment qu'ils s'en prennent à moi. Fait que je ne me mets pas dans une position qui est à risque. Et là, en plus de partager mon ordinateur avec des purs inconnus, là, c'est un peu fou, ces éléments-là.
Oui, c'est un peu fou. Puis tu sais, il y a aussi le risque de se faire manipuler. Hein. La manipulation de l'information en temps de conflit, on ne peut pas se le cacher. Il y a de la fausse information ou disons de la désinformation d'un peu partout. Puis il y a moyen de se faire influencer ou manipuler par des sources d'information. Puis finalement, ce qu'on fait, c'est même pas ce qu'on pensait faire. Là. Donc, faut être excessivement prudent avec ces choses-là.
Oui, puis de toute façon, depuis le conflit, tu parles des informations, c'est pour moi, en tout cas, personnellement, je trouve ça terrible parce que je dois vérifier au moins à 3-4 places différentes mon information pour être capable de faire une opinion qui est à peu près exacte parce que si je lis juste une source de nouvelles, je vais, ça va clairement biaisé. Puis on voit que clairement, l'Ukraine sont pas nés de la dernière en plus sur la désinformation. Ils maîtrisent relativement bien le jeu aussi. Fait que, tu sais, de vouloir acquiescer, disons, les demandes de façon express, c'est la même chose. C'est peut-être un peu un risque aussi parce qu'on connaît pas la vraie game de l'Ukraine dans travers tout ça. Fait que la désinformation est très dangereuse d'un point de vue opinion publique. Bref. Là, tu dis, tu voyais, vous avez plus vu beaucoup d'activités en Ukraine depuis déjà un certain temps. Là, il y a beaucoup de gens qui s'énervent avec le fait que cette guerre-là aurait des répercussions sur l'Occident en général, ou principalement l'OTAN, où la Russie pourrait s'en prendre à les pays amis, mettons, qui vous donnent une certaine forme de contribution, de répercussions de sanctions face à la Russie. Moi, j'ai un certain scepticisme par rapport à ça. Toi, tu es beaucoup plus dans un milieu où tu peux vraiment voir s'il y a lieu ou pas de vraiment voir des mouvements par rapport à ça.
Oui, donc c'est une grande question. Puis je comprends que ça intéresse pratiquement tout le monde. Alors, on peut faire le point, OK? En date d'aujourd'hui, là, il n'y a pas eu de cyberattaque claire qui était liée au conflit à l'extérieur de l'Ukraine. Toutes les attaques normales, là, c'est plate à dire, là, mais les Conti, les Emotet de ce monde, là, ils n'ont pas arrêté de travailler, parce qu'on peut appeler ça un travail, là, au moment où le conflit a commencé, puis ils sont mis en pause. Là. Les attaques habituelles auxquelles on fait face là, à tous les jours, elle continue. Donc, les chances que, si vous défendez une organisation en ce moment, là, si vous voyez une attaque ou une tentative d'attaque sur votre organisation, les chances sont très fortes que ça n'ait aucun lien avec le conflit. Ceci étant dit, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se préparer. Le CISA américain a sorti un article vraiment très, très, très utile avec beaucoup d'informations. Dédié pratiquement aux tactiques, aux TTP, ce qu'on appelle Tactics, Techniques and Procedures, des groupes ou des attaquants qui eux, lient au gouvernement russe. Là, et ils donnent des checklists là, de choses à faire. Entre autres, des vulnérabilités utilisées, qu'on a vu utilisées par ces groupes-là dans le passé. Donc, la checklist dit, si vous avez ces équipements-là, assurez-vous d'avoir mis à jour tous ces systèmes-là. Donc, il faut absolument porter attention à ça. Et ne serait-ce que pour détecter si jamais là, on voyait un Hermetic Wiper être déployé dans une organisation au Canada, là, je pourrais vous dire que je serais le premier à dire là, on a un sérieux problème. Donc, il faut porter attention à ça. On a rendu public beaucoup d'indicateurs de compromission par rapport à tout ce qu'on a vu en Ukraine. Donc, il n'y a comme pas de raison que les organisations au Canada n'aient pas tout le filet en place pour détecter si ces attaques-là se transportent au Canada. Là, il faut le savoir, puis il faut absolument avertir le gouvernement canadien. Le CCCS, Canadian Cybersecurity.
Le CCC.
CCC, voilà. Parce que ça pourrait changer la game. Là. Mais. Ceci étant dit, là, toutes les autres attaques continuent, puis il faut continuer à se défendre contre le quotidien là, quand même.
Oui, c'est ça. Le quotidien, ça ne va pas parce que ces deux pays-là sont en guerre. Puis ces gens-là, comme tu le mentionnes, c'est leur travail. Ils n'arrêteront pas de vouloir payer leur hypothèque parce qu'il y a une guerre. Puis il est très probable que ces gens-là ne sont pas nécessairement dans les zones de conflit en plus. Donc, qu'on doive continuer, leurs banques vont continuer à leur exiger leur paiement, puis tout va continuer. Fait que les autres, ils doivent continuer à vivre normalement. Puis ça revient toujours les affaires d'hygiène de base. Je trouve ça intéressant que le CISA ait sorti justement quelque chose de spécifique, mais il demeure que les éléments d'hygiène de base, conflit par conflit, devraient être là
dans tous les éléments. Exactement. Puis je pense que tout le monde qui nous écoute va les connaître. Là. Mettre à jour ses logiciels, avoir en fait en premier lieu avoir un inventaire de ses ressources, s'assurer que les mises à jour sont mises, avoir du endpoint security tout partout, serveur inclus, Alouette là, donc l'hygiène de base, c'est ce qui va sauver énormément de problèmes.
Oui, puis là, il y a eu un cas au Québec avec Alouette. Est-ce que ce cas-là est lié ou pas? Là, parce qu'il y a un peu de flou, là. Tout le monde se sont énervés, mais est-ce que ça a subi, ça a résisté à l'analyse justement pour conclure ça?
Ça, c'est un super beau dossier pour des fins de discussion. C'est pas beau pour Alouette, évidemment, ils sont dans le pétrin en ce moment. Là. Alors, quand ça a sorti la nouvelle, Alouette a sorti un communiqué en disant on a une. Je pense que ça disait, grosso modo, on a une panne informatique due à une intrusion non autorisée d'un tiers. Alors, c'est un peu cryptique, une drôle de façon de dire qu'il était en train de subir une cyberattaque. Et là, on a vu des gens tout de suite dire c'est très, très fortement probable que ça soit lié au conflit dû à la nature stratégique d'une aluminerie. Et là, on commence à faire des liens. Hein. En Russie, c'est un gros producteur d'aluminium. Le Canada soutient l'Ukraine, donc c'est dans l'intérêt de la Russie de nuire à la production d'aluminium au Canada. Alors là, on a un motif, hein? On imagine un motif, c'est plausible, hein, qu'il y ait ce motif-là, mais dans les faits, on n'en sait absolument rien. À ce moment-là, il n'y avait aucun détail technique sur l'attaque, on n'avait rien, rien, zéro pin barre. J'ai trouvé ça personnellement, j'ai fait une sortie sur LinkedIn là, pour dénoncer ça. Selon moi, c'est irresponsable pour des experts d'aller affirmer ça alors qu'ils n'en savent absolument rien. Bon, ceci étant dit, il y a eu du nouveau cette semaine. On sait que c'est le groupe Conti, on en a parlé tantôt, c'est le groupe Conti qui revendique l'attaque. En fait, ils ont même fuité environ 2 gigs de données qui ont volé à la luminerie. Bon, maintenant, sachant cela, Nicolas, penses-tu que l'attaque est due au conflit ou est liée au conflit?
Ben là, ça, c'est très difficile à déterminer. Conti opérait avant le conflit, puis ils n'ont pas arrêté. Ils ont été un peu échaudés dans le conflit parce que justement, ils se sont fait fuiter. Mais je ne pense pas que ça va arrêter leur opération pour autant. Je ne pense pas qu'ils vont arrêter de vouloir faire de l'argent. Parce que, puis c'est ça aussi, il faut comprendre dans ces gangs-là, c'est que oui, il y en a dans les zones dans le fond en Russie dans ce cas-ci, mais ils sont partout à travers le monde. Ils sont des gens qui sont maintenant tellement dispersés que tout ça se continue. Fait que là, à savoir à quel point c'est ça, fait que je serais pas prêt à le dire. Là.
Ben, c'est ça. Vois-tu, puis si on s'intéresse aussi à la ligne du temps, l'intrusion, vraiment, là, le moment où Conti a eu le contrôle du réseau d'Alouette, ça date d'avant le conflit. T'sais, on a su qu'est-ce qui se passe, on a su que c'était Conti là, cette semaine, mais la ligne du temps ne permet pas de dire que c'est lié au conflit. Le conflit n'avait même pas commencé sur le terrain. Et ensuite de ça, il n'y a pas d'autres indices. C'est pas comme si Conti avait annoncé qu'il avait fait un statement politique en disant « nous, c'est nous » et c'est à cause du support canadien. En ce qui me concerne, même si c'est Conti et même si Conti a dit qu'il prenait part ou qu'il prenait le côté de la Russie dans le conflit, là, pour moi, ça reste toujours une attaque qui n'est pas reliée au conflit du tout.
Ouais, de toute façon, mon feeling personnel, j'ai plus l'impression que tous ceux qui sont sympathiques à la cause russe vont se concentrer sur des éléments plus nuisibles que sur effectivement, l'aluminium. Tu vois, on va très, très loin dans la réflexion. Donc, si on va moins loin dans la réflexion, bien, tout ce qui est pétrole et gaz est probablement beaucoup plus immédiat et beaucoup plus direct. Puis on le voit même dans la tente que consommateur, le prix de l'essence a explosé. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour les forces russes de jouer avec l'opinion publique internationale sur cet élément-là que d'aller faire une illuminerie qui est un petit joueur dans l'ensemble de ce genre de conflit-là.
Oui, voilà. Puis là, ça devient une analyse presque géopolitique, puis c'est un sujet qui me passionne, même si je connais pas les je suis pas un spécialiste, je n'ai pas étudié là-dedans non plus, mais moi, je me reviens toujours aux faits, puis qu'est-ce qu'on peut observer concrètement, puis c'est sûr que quand on, même dans nos travaux d'analyse, d'attaque et tout, on peut se permettre de poser certaines hypothèses pour expliquer un certain comportement, ce genre de truc-là, mais on est capable de mettre un niveau de confiance. On va dire, nous croyons que ce qui s'est passé, c'est ça, avec un niveau de confiance moyen à cause de ces éléments-là observables ou observés. Tac, 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 tac. Et voilà. Mais quand on n'a aucun élément et qu'on fait une conclusion très forte avec aucune nuance, là,
non, ça marche pas. Je suis très d'accord avec toi. Puis c'est moi, ben, peut-être pas des mots aussi forts que les tiens, mais je trouve ça qu'on vient créer du bruit. Puis on nuit à notre profession au bout du compte, parce qu'ensuite, les gens vont vouloir qu'on fasse des analyses fortes comme ça tout le temps, mais on peut pas, ça prend tellement d'informations. Puis il peut prendre un exemple qui est complètement différent, bon, au niveau de la COVID, par exemple, d'un point de vue scientifique, le temps, avant qu'on réussisse à avoir les informations et prendre des décisions claires, ça prend du temps, ça prend des analyses, ça prend des choses, ça se fait pas comme ça. Donc là, je trouve ça hasardeux, là.
Puis tu sais, ça veut pas dire que s'il y a des fois il y a des on fait des rapports des fois sur des attaques puis on n'a pas toute l'information. Mais peu importe, le petit peu d'information qu'on a peut servir à bâtir des défenses. Peut-être que les défenses seront exagérées ou seront un peu à côté de la traque, mais des fois dans le souci du moment là, c'est important de le faire quand même. Parce qu'au pire, on se protège pas tout à fait complètement, mais ça peut aider. Mais là, de tirer des conclusions qui peuvent avoir un impact géopolitique majeur, tu sais, d'aller dire c'est les Russes qui nous attaquent, là. C'était ça le message qui était véhiculé. Les Russes attaquent le Québec. Wow, minute, c'est pas fondé, là. C'est pas fondé. Fait qu'imaginez que le Canada fasse très bien, on riposte. Regardons, tu sais, basé sur quoi? Je suis sûr que le Canada ferait pas ça ou il ferait pas avant d'avoir contre-vérifié de plusieurs sources. Puis c'est ça le travail du renseignement, hein. C'est de contre-vérifier des sources. Pour avoir de l'information au niveau de certitude élevé avant de prendre des actions aux conséquences importantes.
Oui, de toute façon, pour en fait plusieurs gestions de crise, l'attribution n'est pas tellement importante qu'on essaie de commalter le problème avant. Puis, le feu est pris dans la bâtisse, on va éteindre. On ne cherche pas c'est qui a mis le feu dans la bâtisse, on cherche juste de l'éteindre le plus efficacement possible. Fait que là, dans ce cas-ci, c'est comme ça. Mais en plus, ben là, on agite un peu tout le spectre politique de ce conflit-là. Et je crois qu'il est, somme toute, malsain dans la réflexion, qu'on devrait être beaucoup plus rationnel et plus posé sur le sujet.
Oui, tout à fait d'accord. Plus posé.
Fait que moi, ça fait le tour. Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter sur cet événement-là? Est-ce que du moins dans l'état où il est présentement?
Non, ça, je pense qu'on a fait le tour. Là. Je pense que comme tout le monde, on est tous à l'affût de tout mouvement, toute nouvelle apparition là, d'une attaque dans ce conflit-là. Peut-être juste un rappel à tout le monde, si vous ne l'avez pas déjà fait, allez voir l'article du CISA. C'est une super bonne ressource. Puis ça vaut la peine. Hein. On ne peut pas changer la posture de sécurité d'une organisation en une semaine seulement parce qu'il y a un conflit en quelque part dans le monde. Là. C'est une bonne occasion de faire le bilan, de dire est-ce qu'on était prêt, là? Est-ce qu'on aurait été prêt à faire face à la musique, puis de tout de suite s'y mettre à faire des améliorations dans les bons domaines qui ne sont peut-être pas bien protégés en ce moment.
Ben, c'est super. Mais merci énormément de ta contribution. Moi, j'ai appris même beaucoup de choses à travers ça, de tes éléments que j'étais moins familier. Très apprécié. Merci énormément.
Merci, Nicolas.